La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo. C'est l'heure tant attendue de notre rendez-vous mensuel de la maison de l'investisseur. Et quelle est chaleureuse cette maison. On est très content de vous retrouver. Est-ce bien nécessaire d'encore le présenter, l'incontournable Stéphane Descartiers, fondateur de l'entreprise La Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte.
Comment allez-vous?
Très bien, vous?
Eh bien écoutez, ma foi, ça va. Comme chaque quatrième mercredi du mois à 10h, je vous retrouve. C'est un focus investissement qu'on vous propose. Amateur ou confirmé, n'ayez crainte, cette émission est faite pour vous. Cher Stéphane, quel est notre devinette du mois?
Alors une devinette un peu hard, hein, je vous le dis très franchement cette semaine, puisque là on va parler de holding, de SCI-LIS. On avait vu il y a quelques semaines les avantages et les fortes contraintes des SCI-LIS, et nous avons quelques pseudo-spécialistes, en tout cas formateurs, des gens qui vendent des formations, qui vous assurent que tous les problèmes des SCI-LIS peuvent se régler en les intégrant dans des holdings. Donc on va voir aujourd'hui le vrai du faux. Ça règle certains problèmes, mais d'autres pas du tout. Donc je vous propose de voir un petit peu ce sujet un peu ardu, mais quand même tout à fait intéressant.
Alors j'ai grand hâte, je vous avoue que ça va être une découverte aussi pour moi, donc je vais être l'oreille de l'auditeur lambda et poser des questions que pourrait se poser tout un chacun.
Bien sûr.
Et on se retrouve donc juste après ça pour en parler. Jingle.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Retour sur le plateau de la maison de l'investisseur pour aborder ce sujet ô combien complexe. Mmh. Déjà, rien que le mot un petit peu barbare, la holding. Mmh. Alors déjà, c'est quoi une holding, cher Stéphane?
Alors une holding, c'est une société qui détient d'autres sociétés et qui va, effectivement, du fait de son statut, présenter quelques avantages. Alors le premier avantage, c'est que ça permet de faire de l'intégration fiscale. Alors qu'est-ce qu'on entend parler par
un terme barbare.
Intégration fiscale. Bon, pour faire très simple, vous avez une société qui fait des bénéfices. Bon, et qui devrait être taxé sur ses bénéfices. Et vous avez une autre société qui va être en démarrage ou qui va être en perte, notamment les premières années. Si ces deux sociétés sont détenues par la même holding, les bénéfices de la première société vont être absorbés par les pertes de la deuxième. C'est-à-dire que vous allez intégrer les résultats de vos différentes sociétés et donc atténuer l'impôt, puisque une société déficitaire, elle ne peut remonter de déficit sur rien du tout, mais si elle est dans une holding où il y a d'autres sociétés qui font des résultats, vous allez pouvoir absorber les résultats des sociétés bénéficiaires par des sociétés déficitaires.
Donc du coup, c'est un système de compensation.
Oui, tout à fait.
Qui va venir équilibrer et vous permettre de payer moins d'impôts. Est-ce que la holding se situe, si je puis dire, dans la hiérarchie, au-dessus? Est-ce que c'est une sorte d'entité suprême et avec en dessous les autres sociétés?
Oui, c'est ça. Si on peut, si on veut visualiser effectivement sur un schéma, la holding est en haut et va avoir ses sociétés en dessous et remonter les résultats, les pertes et intégrer justement ces résultats. Mais bon, il faut quand même bien le dire. Hein, déjà, une société, ça coûte de l'argent. Alors, une holding, ça en coûte encore plus. Il faut des commissaires aux comptes, il faut effectivement des experts comptables. Donc, c'est un coût qui est quand même non négligeable. Hein. Donc, il faut bien vérifier, surtout que le jeu en vaille la chandelle.
Et en termes d'imposition, du coup, qu'est-ce que ça va me faire gagner?
Alors, ça vous fait gagner l'impôt sur les sociétés. Sur votre société qui aurait dû payer 15% d'IS jusqu'à 38 000 euros de résultats, puis 28%, qui vont peut-être baisser dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est 28% effectivement de résultats d'impôts sur les sociétés, sur les bénéfices, vous effacez effectivement cette imposition-là. Et même, effectivement, si vous réinvestissez les bénéfices d'une de vos sociétés sur une nouvelle activité, également sur une nouvelle société, de par votre holding, bah, vous effacez complètement l'impôt. Donc c'est pour des sociétés qui peuvent à un moment donné vraiment avoir des résultats forts, ça peut avoir un intérêt.
Donc, en gros, c'est intéressant si jamais je veux créer une grosse société, quelque chose avec beaucoup de biens.
Oui.
Si j'ai beaucoup d'investissements à faire, en fait. Oui, pour un appartement, ça ne vaudra pas le coup.
Non. Pour un appartement, ça ne vaut pas le coup. Moi, je suis un petit peu parfois effaré parce que, justement, ces vendeurs de formations, de webinaires, qui sont quand même, en plus, sur des formations assez chères, qui attire des investisseurs qui vont avoir une capacité d'investissement de 3 ou 4 appartements. Quand je vois des gens qui se lancent dans des SCI à l'IS avec holding au-dessus, etc., très honnêtement, 9 fois sur 10, c'est totalement surdimensionné. Surdimensionné par rapport au coût, déjà, pour créer une SCI à l'IS qui est une vraie société, puis les holdings derrière, c'est surdimensionné. Rien que les coûts vont être très importants. Et puis surtout, on le sait, on en avait déjà parlé pour la SCI à l'IS, les SCI à l'IS, notamment pour se rémunérer, et surtout la bombe fiscale à retardement qu'est une SCI à l'IS, et on va voir qu'avec une holding, avec les holdings, ça ne règle pas ce problème-là, est toujours présente. Donc, moi, 9 fois sur 10, je constate que les montages SCI à l'IS plus holding sont totalement surdimensionnés. C'est valable si vous voulez créer une foncière, c'est valable si vous avez 30 millions d'euros à investir et que vous allez investir 10 ou 15 millions d'euros pour réaliser une foncière, là, oui, ça peut se justifier, ça peut être pertinent. Mais ce que je vois passer, moi, comme montage, très honnêtement, 9 fois sur 10, c'est totalement surdimensionné.
Donc, il y a des gens qui conseillent ce genre de montage, oui, de dispositif, alors même que ce n'est pas forcément nécessaire.
C'est-à-dire qu'ils conseillent, ils vendent des formations, hein, on s'est bien compris. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du conseil comme ça. Ils vendent des formations, ils vendent des services d'expertise comptable sur lesquels ils sont également rémunérés. Donc, parce que, effectivement, encore une fois, on revient sur le même problème que les SCI à l'IS et la holding ne règle rien. En définitive, on crée des sociétés, enfin, on est actionnaire de sociétés qui créent des richesses, mais pour que ces richesses arrivent dans votre poche de particulier, eh bien,
accrochez-vous.
Voilà, pour pouvoir vous payer, vous, en tant que particulier, ben, c'est pas miraculeux. Mmh. Parce que, comme on le sait, effectivement, soit on va se rémunérer en dividendes lorsque la société va générer des résultats, mais les dividendes, ben, y a quand même l'imposition d'abord sur les sociétés. Donc à 15% jusqu'à 38 000 euros, puis 28%. C'est déjà une première imposition qui n'est pas neutre. Et ensuite, vous avez la flat tax. Donc vous rajoutez 30% d'impôts. Donc c'est pas miraculeux. Pour les petites tranches d'imposition, c'est même plus d'impôts. En définitive, c'est uniquement pour les tranches d'imposition à partir de 41 ou 45% qui a un vrai intérêt à passer par un système, effectivement, de rémunération en dividende sur de l'immobilier, hein, uniquement pour les tranches maximum. Et puis reste, ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, et là, la holding ne règle rien, reste la bombe fiscale à retardement, donc de la plus-value, puisque sur la plus-value,
sortie.
De la sortie, puisque ça, on l'avait déjà vu sur notre émission il y a quelques semaines sur la SCI à l'IS. Plus les années passent, plus on va être taxé, et très lourdement, sur la plus-value en SCI à l'IS. Alors qu'en SCI à l'IR ou en immobilier traditionnel ou même en meublé non professionnel, eh bien la plus-value, plus les années vont passer, moins il y aura de plus-value. Donc, et au bout de 30 ans, vous êtes totalement exonéré de plus-value. Et déjà, au bout de 22 ans, quasiment totalement, à part la CSG. Donc voilà, il faut bien réfléchir, ne pas mettre tout son patrimoine effectivement sur ce type de montage, et puis aller vers ce type de montage si on veut créer une foncière, mais pas pour gérer 3 ou 4 appartements. C'est totalement surdimensionné, nous sommes d'accord.
Pas pour récupérer non plus de l'argent, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'il faut... Enfin, il faut avoir conscience que cet argent, on va le bloquer.
Oui, tout à fait.
Et qu'il ne sera pas personnellement accessible.
Non, on ne pourra effectivement jamais réaliser son actif. Il faut se dire que lorsqu'on lance, que ce soit une SCI à l'IS avec holding ou pas, il faut se dire que ce bien, on ne le revendra jamais. Ni soi, ni ses héritiers. Donc là, c'est quand même un peu je trouve, présomptueux. Parce que déjà, de se dire soi-même, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en serai là, je vais réaliser ça, ça va se passer comme ça. S'il y a une constante dans la vie, c'est rien que te passe jamais comme prévu. Donc déjà, d'être sûr de son avenir à soi, de son destin, c'est déjà parfois un petit peu présomptueux. Alors de celui de ses enfants, on n'en parle même pas. Et moi, ce que je vois très souvent, notamment dans mes agences, c'est des clients vendeurs qui ont hérité de SCI à l'IS ou même de holding, etc. Et quand je leur fais le calcul Alors, bien sûr, les parents ont économisé des impôts, mais quand les enfants doivent donner 50, 60%, ça peut monter jusque-là, de plus-value sur le prix, effectivement, qu'ils ont payé, parce qu'en plus, quand ils font de la réelle plus-value, c'est un véritable massacre. Donc, nous sommes bien d'accord, des bombes fiscales à retardement. Et en tout cas, il y a beaucoup plus simple à faire.
Oui, et puis léguer une bombe fiscale à retardement à ses enfants, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on puisse avoir.
Oui, non, non.
Donc,
non, pas vraiment.
En gros, c'est complexe.
Oui.
Ça coûte cher.
Oui.
Juste pour avoir un ordre d'idée, je prends un comptable pour gérer ce genre de dispositif. Annuellement, une fourchette, combien ça me coûte ?
Au moins 10 à 15 000 euros par an, facilement, avec une holding, des filiales, etc., société mère et compagnie. Oui, c'est facilement 10 à 15 000 euros par an, rien que pour le comptable, l'expert comptable.
Oui, ça commence à faire.
Oui, tout à fait.
Et l'année dernière, il y a une nouvelle doctrine qui est apparue, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors, parce qu'il y a aussi certains spécialistes, je mets des gros guillemets, qui vous disent qu'on peut régler aussi le problème en intégrant dans une holding des sociétés à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Mmh. Donc là, on peut régler, entre parenthèses, le problème, puisque on a une holding qui a une fiscalité d'entreprise, et puis on a des SCI à l'impôt sur le revenu qui ont notamment une sortie beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteuse. Ça pouvait passer, je dirais, jusqu'en 2019. Mais en 2019, vous savez que on a l'article L64A du livre des procédures fiscales. Donc là, on est dans la poésie française.
C'est magnifique.
Magnifique. Donc, mais qui surtout définit le nouvel mini abus de droit, qui dit, je ne veux pas vous le lire, mais entre guillemets, si on fait des choses uniquement pour des raisons fiscales, c'est retoqué. Bon, alors là, je vais vous dire, les montages holding avec SCI à l'IR, parce qu'en plus, à la sortie, il faut qu'en tant que particulier, on rachète ces SCI à l'IR. Vous imaginez la complexité. Pour moi, et pas que pour moi, pour un certain nombre d'intervenants, de spécialistes, ça ne passe plus, ça. Ça ne passe plus. Ça
alors,
ne pourrait plus passer. En tout cas,
même,
moi, je ne le conseille plus à mes clients.
Je suis quand même sceptique sur cet article. Parce que bon, le principe d'avoir un gestionnaire, justement, quelqu'un qui va gérer un peu des montages fiscaux pour nous permettre de payer moins, en gros, ce que cet article dit, c'est que si le seul but, c'est éluder les charges fiscales ou de les atténuer, ça passera pas.
Oui, alors attention, parce qu'il y a surtout dans cette mini-habit de droit une définition de... Si c'est pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, eu égard à ces situations ou à ces activités réelles. Et là, les activités réelles, c'est de l'immobilier, etc. Donc, pour moi, ça passe plus. Pour moi, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, on verra, puisque pour l'instant, c'est
tout
récent.
On aura des arrêts de jurisprudence là-dessus qui nous éclaireront sur le sens à donner.
On attend les jurisprudences, mais en tout cas, moi et les conseils avec qui je travaille, on ne le conseille plus du tout. Ce type de montage, c'est vraiment beaucoup trop touchy.
Eh bien, très bien. Bon, en gros, l'idée principale, puisque notre émission avance, et je pense qu'on a bien compris l'idée, à savoir que ce n'était pas forcément conseillé de le faire.
Pour une foncière, oui. Pour de gros investissements, oui.
Voilà.
Pour gérer quelques appartements, non.
Non.
Clairement, non.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place ?
Alors, y a beaucoup plus simple à faire. Il y a beaucoup plus simple, il y a simplement le fait de considérer, vous pouvez remplacer votre holding par votre 2044. Pourquoi ? Parce que...
La 2044, la déclaration de revenus fonciers.
Votre déclaration des revenus fonciers, que tous les bailleurs connaissent bien. Pourquoi ? Parce que si vous avez une opération qui est bénéficiaire, dans votre 2044, vous avez un appartement qui est payé depuis longtemps, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a pas de travaux, etc. Vous montez des revenus positifs. Il suffit pour le même particulier de lancer d'autres opérations, mais cette fois-ci avec beaucoup de travaux, Et ce déficit va venir absorber votre revenu exactement comme dans une ligne, mais sans paperasse, sans expert comptable, simplement vous sur votre comptable avec votre 2044, ben vous allez pouvoir obtenir le même résultat. Vos opérations bénéficiaires, les résultats de votre opération bénéficiaire vont être absorbés par de nouvelles opérations avec travaux, et vous faites votre petite ligne tranquille de votre côté sur votre 2044, et ça marche très bien. Pour ceux qui veulent développer un gros patrimoine, notamment sur de l'immobilier, ce qu'on peut conseiller aujourd'hui au vu de l'actualité des droits et de ce qu'on peut faire, moi, ce que je peux conseiller notamment, c'est de faire plutôt du meublé. On en avait déjà parlé sur une précédente émission, puisque là aussi, le meublé, c'est le meilleur des deux mondes. Alors, je parle bien du meublé au réel, c'est-à-dire du meublé à l'amortissement. C'est-à-dire qu'on a une facilité...
Tout en sachant que ça ne durera peut-être pas comme les impôts.
Voilà, ça ne durera pas toute la vie. Donc, il faut en profiter tant qu'effectivement, il y a autant d'avantages. Donc l'idéal, c'est de faire du meublé en faisant bien attention de ne pas passer en lourd en meublé professionnel, puisque ça, on l'avait vu déjà aussi aujourd'hui, on supporte les charges sociales plein pot, donc il faut éviter le statut de lourd en meublé professionnel. Donc vous créez du patrimoine en meublé jusqu'à, en gros, 23 000 euros de revenus et la moitié de vos revenus professionnels par ailleurs. Donc, vous développez un patrimoine en meublé. Au moment où vous allez arriver au meublé professionnel, vous arrêtez le meublé et vous refaites du nu. Vous faites du nu avec de nouveaux investissements et en respectant un équilibre avec des opérations à fort rendement et d'autres opérations avec beaucoup de travaux qui vont venir équilibrer, absorber vos forts revenus sur vos opérations. Et là, vous pouvez effectivement avoir constitué des patrimoines de 5, 10, 15, 20 appartements ou maisons avec zéro impôt. C'est possible, on le fait, mais il faut une stratégie effectivement dès le départ et sans passer par des sociétés, des holdings, etc.
Si je comprends bien, juste le mot de la fin pour terminer, si je comprends bien, je peux avoir, l'idée c'est d'avoir en deçà de 23 000 euros de revenus du meublé.
Tout à fait.
Et dès que je vais dépasser ce cap, je vais acheter éventuellement d'autres investissements en nu. Et ils vont se compenser les uns avec les autres.
Alors le meublé, non. Le meublé, il va rester dans son coin.
D'accord.
De meublé, puisque c'est pas les mêmes revenus, c'est du BIC. Mais avec le meublé, l'avantage, c'est que vous pouvez amortir. On en avait parlé. Donc finalement, le meublé, ça ne crée pas du tout d'impôt avant 20 ou 25 ans. Et dans une autre rubrique, cette fois-ci en 2044, donc on n'est plus en BIC, on est revenu foncier. Là, on va mener des opérations, donc différentes opérations, avec donc certaines opérations qui vont remonter donc très vite, qui vont être en revenu foncier, et d'autres opérations avec beaucoup de travaux qui vont venir absorber les revenus de vos opérations, donc qui vont être sur votre 2044 en revenu foncier. Vous faites votre holding sur votre 2044 pour vos revenus fonciers, et par ailleurs, un patrimoine en BIC, en meublé, jusqu'à 23 000 est, parce que c'est cumulatif, 23 000 est
50%,
donc la moitié, 50% de
mes
revenus.
De
vos revenus. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, notre émission touche à sa fin. Merci Stéphane, merci à la technique, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro de la Maison de l'Investisseur. On compte sur vous. À très bientôt sur Radio Immo.
La Maison de l'Investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.